Il est 7h presque 2 minutes. Tommy Chouinard, bonjour.
Bonjour, Louis.
Alors, on n'aura pas le choix. On va devoir refaire le plan de la rentrée scolaire.
Et ça, je pense que c'était quand même assez prévisible, ne serait-ce que par la décision, évidemment, au cours de l'été, qui a tout changé, qui a changé pas mal de choses, le port obligatoire du masque pour toute personne de 12 ans et plus. En fait, le ministre Roberge, si on se reporte au printemps, Louis, il y avait énormément de pression du réseau scolaire pour qu'il présente très rapidement un plan pour la rentrée scolaire. Oui. Je sais pas si tu te souviens, mais tout le monde avait... Il s'était montré très inquiet de la possibilité qu'il n'y ait pas de retour en classe purement et simplement. Et donc, avec la santé publique, on avait présenté un plan à la mi-juin. Qu'est-ce que ce plan-là disait, au fond? C'est que du préscolaire jusqu'à la troisième secondaire, tout le monde retourne en classe dans les mêmes avec la même taille de classe, donc de groupe, mais à l'intérieur des groupes, on crée des sous-groupes.
Oui.
D'environ 6 élèves qui vont toujours rester au fond ensemble et les groupes restent dans la même classe physiquement. Et ce sous-groupe n'a pas respecté les règles de distanciation physique. On va s'assurer qu'il y a au moins 1 mètre entre chacun de ces sous-groupes-là. Pour les 4e et 5e secondaire, possibilité pour les écoles d'adopter un modèle hybride, donc de la présence en classe, toujours avec le concept des sous-groupes, des bulles qu'on a appelées, mais aussi de l'enseignement à distance. La donnée du masque vient changer pas mal de choses parce que là, on va se demander si, et c'est la réflexion du gouvernement, je te dirais que ça se dirige pas mal vers le port du masque là, pour le personnel scolaire et les élèves, donc en particulier du secondaire.
Mais c'est parce que là, on dit partout dans les édifices publics, si tu as plus de 12 ans, tu portes le masque. Alors pourquoi ça changerait dans les écoles? C'est comme deux poids, deux mesures.
Exactement. Ouais. Mais poussons plus loin la réflexion. C'est la santé publique a dit au printemps dernier, en juin, au gouvernement, si vous souhaitez que les élèves retournent en classe, il faut adopter le concept des bulles, des sous-groupes. Hein? Mais maintenant, si on ajoute le masque, est-ce que ça tient toujours la notion de sous-groupe? Est-ce que le port du masque, donc, est éliminé à l'intérieur du sous-groupe? Est-ce que l'on ne l'exigerait que pour les déplacements à l'intérieur de l'école? Et pour l'enseignant, est-ce que l'enseignant le porte dans les couloirs, dans la salle des profs ou pas? Donc, il y a une série de questions qui se posent, ne serait-ce que pour la notion du masque, mais aussi pour les protocoles d'urgence.
Là. Oui, mais t'as peu, là. Qui va fournir les masques? Souviens-toi, au tout début, là, quand on a amené le premier plan, là, où on a ramené les écoles puis tout ça, là, les syndicats ont été obligés de se battre pour dire, ben nous autres, on veut des masques. Puis ceux qui veulent porter des masques, mais là, on n'a pas de masques, puis ça prend du matériel de protection. Finalement, le gouvernement a dit, OK, on va fournir des masques. Alors là, on fournit les masques à qui? Est-ce qu'on fournit les masques jusqu'aux enseignants? Les étudiants, les élèves, est-ce qu'ils portent des masques? Et s'ils portent des masques, qui les fournit? Et qui va payer pour les masques? C'est-tu les centres de services scolaires ou ça va être le gouvernement? Qui paie ça ultimement?
Ben, ultimement, en fait, je pense que les centres de services scolaires vont avoir cette responsabilité-là d'assurer, si d'aventure on l'oblige effectivement, et ça se dirige vers ça, le port du masque pour le personnel scolaire, puis les élèves. En fait, moi, ce qu'on peut très bien anticiper, Louis, on sait très bien que ça peut arriver d'oublier son masque pour des, par exemple, des élèves qui n'utiliseraient pas le transport scolaire, là où il faudrait déjà un masque, d'après ce que je comprends.
Ouais.
En tout cas, ça, on se dirige vers ça. Donc, qui se présente à l'école, je sais pas moi, à pied, j'oublie mon masque à maison, mais il en faut un à l'école. Là. La fréquentation scolaire va être obligatoire là cet automne, oui. Puis si je te parlais aussi des protocoles d'urgence en cas de COVID, là, en cas de si on a des soupçons, si un élève présente des symptômes, c'est pas mal plus compliqué qu'on pense. C'est vrai que le printemps dernier, on a eu une certaine expérience, c'est-à-dire que les écoles primaires en dehors du Grand Montréal ont été ouvertes. Hein? Oui. C'est sûr que dans le Grand Montréal, on se dirige vers de l'inconnu, puisque ni les écoles primaires ni les écoles secondaires n'étaient ouvertes. L'expérience qu'on a eue le printemps dernier avec les écoles primaires ailleurs au Québec, c'est que ça s'est relativement bien passé, mais c'est dans des conditions hautes. Des classes plus petites, c'était pas obligatoire de se présenter, et il y a somme toute eu peu de cas. D'accord? Donc, les protocoles d'urgence n'ont pas eu à être déclenchés de façon très systématique un peu partout, à gauche, à droite. Là, maintenant, la fréquentation, elle est obligatoire. Puis, elle est obligatoire, y compris pour l'enseignement à distance, si d'aventure, on en a besoin. C'est toute une commande pour le réseau scolaire, parce qu'on sait ce que ça a été, là, l'enseignement à distance, le printemps dernier. Ça a été pour le moins inégal. Donc, les protocoles d'urgence, puis il y a d'ailleurs Marois Risky, la députée libérale, qui a écrit hier, j'ai obtenu sa lettre d'ailleurs, au directeur national de la santé publique, le docteur Horacio Arruda, elle pose une trentaine de questions qui portent en particulier sur les protocoles d'urgence. Parce que il y a une chose qui va se passer cet automne, Louis, qui est la grippe saisonnière. OK? Pourquoi je te parle de la grippe saisonnière? Si un élève du primaire, deuxième année, se présente en classe, a des symptômes.
Oui.
Je te rappelle que les symptômes...
c'est à peu près les mêmes que la COVID.
C'est apparenté à la grippe saisonnière.
Oui, c'est ça.
Bon. Là, il se passe quoi exactement? Mm. Donc, ça a une implication pour l'enfant, pour le personnel scolaire, mais aussi pour les parents. Parce que bon, on peut anticiper que les parents vont rester à la maison assez souvent là, dans ces conditions-là. Si on doit se présenter, écoute, c'est quand même, il y a beaucoup de choses. Là. Est-ce qu'on doit... l'élève va-t-il subir un test de dépistage? Est-ce qu'on va aviser les autres, les parents des enfants des autres écoles? Si le cas est positif, dans quelle mesure est-ce qu'on ferme quoi la classe, l'école au complet? Est-ce que ça va se déclencher automatiquement, l'enseignement à distance? Là, il est supposé avoir une garantie. Mais tu sais, c'est vraiment, il y a plusieurs questions. Ouais, c'est normal qu'il y ait ces inquiétudes-là aussi. Ouais. Je l'ai dit dans le Grand Montréal en particulier, qui n'a pas vécu du tout de retour en classe là, le printemps dernier. Donc, il va falloir que le plan révisé, qui devrait être présenté la semaine prochaine, précise un certain nombre de choses. Là.
Mais juste la gestion des masques, là, je te dis, là, si on impose le masque là, dans les écoles avec des enfants, par exemple, en maternelle, en première année, deuxième année, troisième année, la gestion des masques, ça va être un méchant casse-tête parce que le masque devient un objet potentiellement contaminé. Alors, tu le gères comment? Tu sais, il y a un enfant là qui a peut-être la COVID-19 puis qui a respiré dans son masque pendant 4 heures. Puis là, il faut qu'il l'enlève, le changer de masque éventuellement, tout ça. Et tu fais quoi avec le masque? Tu le mets-tu dans la poubelle normale? Tu le manipules comment? C'est niaiseux, là. Mais le diable est dans les détails.
Et je te dirais que je pense qu'il est à peu près acquis là que les élèves du primaire, là, ils n'auront pas à porter le masque.
Ouais.
D'après ce que j'ai entendu, là, de toute façon, en Ontario, ils l'imposent pour au-delà de la quatrième année de mémoire. Ça a été annoncé la semaine dernière. C'est ça qui a fait de la pression sur le gouvernement
du
Québec.
Exact.
Parce que je te rappelle que si au Québec, en juin, il y avait un plan qui a été annoncé, si on veut, préliminaire, en Ontario, il n'y avait rien du tout. Là. Donc, il était à peu près temps qu'ils arrivent avec quelque chose de leur côté. Mais donc, je pense que la question se pose davantage pour le secondaire, là où je pense que bon, il y a une certaine maturité.
Mais ce qu'on entend, c'est tous les jeunes de 12 ans et plus, en temps normal, suivraient la consigne.
Exactement, la consigne. Ouais. Donc, on ne l'appliquerait pas là, aux primaires. Ouais.
Parce que c'est trop dur à gérer, d'une part, puis en plus, c'est pas recommandé par la santé publique.
Bon, exactement.
La chef libérale, Dominique Anglade, pendant ce temps, est en tournée des régions?
Oui. Tournée des régions, mais ça, c'est assez intéressant, les chefs qui font des tournées des régions, premier ministre ou chef de l'opposition, parce qu'ils envoient des messages aussi à l'intérieur de ces missions-là, de ces tournées-là. Souviens-toi, juste avant de prendre ses vacances, le premier ministre François Legault a fait une petite tournée. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait rencontré les PDG des 6 des 6. Ça, les gardes en état d'alerte. Il avait dit, je vais rencontrer, là, il s'était présenté aussi aux côtés de députés qui avaient été qui n'avaient pas été promus là, pour remanier le ministériel, qui ont des ambitions aussi, Yuri Chassin, Louis Lemieux, donc qui a soigné son caucus. Pour Dominique Anglade, c'est impératif d'aller en région parce qu'on sait, le Parti libéral n'a aucun député à l'est de l'île de Montréal. Les associations de comté sont moribondes. Il y a un creux historique de 20 000 membres au Parti libéral, disait-on en janvier, puis on imagine qu'avec le confinement, ça ne s'est pas vraiment amélioré.
Ouais.
Et elle a été couronnée chef. Alors, il n'y a pas vraiment eu de course, donc elle n'a pas eu l'occasion de mousser, si on veut, sa candidature. Elle prend, en Mauricie cette semaine, à Québec, sur deux thèmes, pour deux secteurs économiques qui ont été particulièrement touchés au cours de la pandémie, donc le secteur culturel, le secteur touristique. Donc, elle s'adresse vraiment à des clientèles où là, il y a des demandes très grandes à l'égard du gouvernement. D'une part, Mauricie aussi, centre du Québec, c'est deux terreaux fertiles pour la CAQ. Dominique Anglade cherche à remonter la pente dans ces secteurs-là. D'ailleurs, je te rappelle que son chef de cabinet, c'est l'ancien député de Vanier-les-Rivières, Patrick Huot. Ouais. Donc, elle a fait certains choix stratégiques dernièrement, aussi avec le remaniement de son cabinet fantôme, alors qu'André Fortin a pris du galon, député de l'Outaouais, donc en région. Par la suite, elle va mettre le cap Elle va faire une tournée sur le thème de l'éducation aussi en région d'ici la fin du mois. Puis elle aura aussi elle fera aussi sur le thème sa tournée sur le thème de l'agriculture également.
Ouais.
Évidemment, ces tournées-là, c'est l'occasion à la fois de se faire connaître comme chef de l'opposition officielle, mais aussi de rebâtir le parti d'ici les élections.
Il y en a
c'est
bien
dans
besoin.
Deux ans, ça voilà. passe vite. Mm. Donc, c'est quand même une bonne... on s'entend que c'est une bonne commande pour elle
exact.
D'ici les élections.
Merci, Tommy. À demain.
À demain.
Sur l'autoroute 440, Linda.